Nous sommes le deuxième dimanche du mois, et comme c'est notre habitude, et comme vous le voyez dans votre bulletin, tout à l'heure nous allons célébrer le repas du Seigneur. Et en réfléchissant là-dessus, je commençais à réfléchir aux circonstances qui entouraient la mise en place de cela par Jésus lors de la dernière Pâque. Et j'étais attiré vers Jean chapitre 13, et je vous invite à trouver ce passage avec moi. Jean chapitre 13, parce que nous lisons ce passage et peut-être nous avons tendance à oublier que c'est au cœur de cette mise en place du repas du Seigneur, de cette commémoration, que Jésus va parler avec ses disciples. Il va faire plus ou moins ce discours qui va du chapitre 13 jusqu'à la fin du chapitre 17. Il va expliquer beaucoup de choses avant et aussi après la mise en place de cette commémoration. Et des versets que nous connaissons bien, et pourtant j'aimerais y revenir parce que nous avons encore du progrès à faire, n'est-ce pas? On aimerait pouvoir dire « Je suis arrivé ». Vous savez, quand on fait une course ou autre, on arrive à la ligne d'arrivée. Et là, fini, je suis arrivé. Et nous n'y sommes pas encore. Un jour, on y sera. Et Jésus explique cela dans Jean chapitre 14, cette bienheureuse espérance. Il va nous préparer une place et il revient. Mais entre-temps, il nous montre l'exemple. Jean chapitre 13, et en fait, nous allons lire les 20 premiers versets, donc un passage un peu long, mais suivez avec moi alors que je le lis, pour voir justement l'exemple de Jésus et comment nous pouvons suivre cela. Jean chapitre 13, du verset 20 jusqu'au du verset 1 jusqu'au verset 20. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Prions. Oui, Seigneur, nous plaçons ces moments entre tes mains. Que tu nous donnes l'intelligence qui vient du Saint-Esprit pour comprendre ta parole et surtout, Seigneur, par la suite, de la mettre en pratique. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux que cette parole ait son effet dans notre cœur et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour cela. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, cette histoire nous est tellement familière que parfois nous la lisons et la réaction des disciples à ce que Jésus fait, on se dit, mais il n'aurait pas dû réagir comme cela. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ne comprennent-ils pas tout ce que Jésus leur avait enseigné? Bien sûr, ils auraient dû laisser Jésus faire ce qu'il fait ici. Et pourtant, essayons de nouveau de nous mettre à leur place. À leur place, chacun de nous, et je m'inclus là-dedans, je suis convaincu, on aurait réagi exactement de la même façon. Et apparemment, Jésus, avec les quelques premiers disciples pour lesquels il a lavé les pieds, ils ont dû se poser des questions intérieurement, mais il semble que personne n'ait dit quoi que ce soit jusqu'à ce qu'on arrive à Pierre. Et dans un sens, c'est pas étonnant, quand on voit les évangiles, qui en général parle, qui en général va ouvrir sa bouche et très souvent va avoir tort, c'est Pierre, n'est-ce pas? Et Jésus sera obligé de le reprendre à plusieurs reprises, mais Pierre est quelqu'un qui s'exprime, qui dit ce qu'il pense, à tort ou à raison. Et ici, Pierre se dit, mais ça ne peut pas continuer, qu'est-ce qui se passe ici? Et donc, il va dire quelque chose. Et on se dit, mais Pierre, tu aurais dû comprendre. Et dans un sens, il aurait dû, mais ne soyons pas trop durs avec lui, parce que à sa place, chacun d'entre nous, j'en suis convaincu, aurait réagi exactement de la même façon. Alors, nous revenons au verset 1. Parce que comme j'ai dit, le contexte ici, c'est la Pâque juive que le peuple d'Israël avait célébré pendant, on va dire, entre 1300 et 1400 ans. Depuis leur sortie d'Égypte, Israël avait célébré la Pâque. Par moment, ils avaient délaissé cela, ils n'avaient pas célébré chaque année comme ils auraient dû. Mais surtout après le retour de Babylone et dans les 400 ans entre la fin de l'Ancien Testament, le début du Nouveau, la Pâque était devenue quelque chose de très important et le peuple célébrait cela tous les ans. Et ici, nous voyons verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, va faire un ensemble de choses. Et la Pâque, et lorsque nous nous souvenons de la Pâque, pour nous, nous avons un regard autre parce que cela ne nous touche pas directement, mais souvenons-nous de cet événement où Dieu, voulant montrer sa gloire, sa puissance pour délivrer son peuple d'Égypte, va exterminer tous les premiers-nés, à la fois des hommes et des animaux, en Égypte. Et par ce signe de sang d'animaux sur les portes des Juifs, il va délivrer son peuple. Et quand, comme Dieu a dit à Moïse, quand je vois ce sang, je passerai par-dessus. Je ne viendrai pas et vos premiers-nés seront préservés. Et là, Dieu a opéré une grande délivrance. Et le peuple d'Israël fait référence à cela à maintes reprises, à la fois dans les psaumes, dans d'autres livres, même les auteurs du Nouveau Testament, en faisant l'histoire d'Israël, comme Étienne et d'autres, vont faire référence à cela. Et ici, la Pâque juive était, on va dire, le plus grand événement, en dehors du jour du grand pardon, dans l'histoire et dans la vie des Juifs. Et c'est là où Jésus, bien sûr, dans sa toute connaissance et dans le plan de Dieu, va mettre en place cette commémoration du repas du Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là que, aussi, nous pouvons le célébrer. C'est-à-dire une grande commémoration. Dieu a sorti son peuple d'Israël. Ça, c'est la Pâque juive. Et si nous sommes sauvés par grâce, si à un moment donné nous avons placé notre foi, confiance en Dieu, Bah, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, comme Paul va l'expliquer aux Éphésiens. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu nous a délivrés. Et comme Paul va l'expliquer dans Romains chapitre 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et tout comme la Pâque juive va expliquer la délivrance que Dieu avait donnée à son peuple, en quelque sorte, nous pouvons voir que la commémoration du repas du Seigneur nous montre la grande délivrance du péché que Dieu accorde pour nous. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va s'asseoir avec ses disciples, et nous voyons Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et lorsque nous voyons ce passage avec les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et il montre que Jésus savait parfaitement ce qui se passait. Cela devrait être une grande source d'encouragement pour nous. En disant, Jésus n'a rien subi ici. Ce n'est pas un accident. Jésus ne s'est pas trompé. Ce n'était pas le hasard. Il n'était pas impuissant face à tout ce qui se faisait ici. Et je suis convaincu que vous savez cela. Que vous êtes convaincu de ces vérités, mais il faut se les rappeler. Parce que sinon, on peut regarder ces événements comme tout simplement une suite de simples événements. Mais non, c'est bien plus que cela. Dieu dirige tout ce qui est en train de se passer ici. Et Jésus, avec une parfaite connaissance de ce qui se passe, va se préparer à se livrer à la fois pour ses disciples et aussi pour chacun d'entre nous. Il n'a jamais perdu le contrôle de toutes ces circonstances. Non, il savait très bien que le moment était venu. Et nous pouvons nous référer à Jean chapitre 2 de voir que à un moment donné, Jésus va dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Souvenons-nous des noces de Cana. Qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Mon heure n'est pas encore venue. Et à plusieurs reprises pendant son ministère, son heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, si, l'heure est là. Et Jésus le savait très bien. Et puis nous voyons la fin de verset 1. « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Il les avait tant aimés. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Oui, donner sa vie, ce qu'il va faire. Mais aussi, nous voyons ce qu'il fait dans les versets qui suivent, ces versets que nous avons lus, qu'il va se mettre au plus bas. Il va prendre cette position qu'avait le moindre serviteur. Déjà être serviteur, esclave littéralement, c'est le mot qu'on emploie. Il avait certaines tâches et c'était pas un rang qu'on préférait, mais c'était vraiment le plus bas des serviteurs, plus bas des esclaves, qui avait la tâche de laver les pieds. Et qui ici voudrait physiquement, littéralement, laver les pieds? Déjà, on apprécie, je ne sais pas vous, mais déjà, on n'apprécie pas trop laver ses propres pieds, n'est-ce pas? Surtout quand ils sont sales, imaginez-vous, ils n'avaient pas les chaussures fermées comme nous avons aujourd'hui, toute la poussière. Quand vous êtes sale, vous n'appréciez même pas, vous lavez vous-même. Bon, on apprécie quand c'est terminé et on est propre, mais laver ses propres pieds, quand même. Alors, d'autant plus les pieds de quelqu'un d'autre, imaginez-vous. On le dit, mais essayons de penser. Laver les pieds de quelqu'un d'autre, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et Jésus va le faire. Et Jésus, bien sûr, dans son humanité, il était un simple homme. Mais en même temps, n'oublions pas, il est Dieu. Et Jésus, ici, va s'abaisser de manière volontaire et va prendre cette position du moindre serviteur, va accomplir la tâche que personne d'autre aurait voulu faire. Aucun des disciples ne s'est proposé de le faire. Apparemment, le maître de la maison, là où il prenait la Pâque, où ils avaient la Pâque, n'a proposé de le faire. Aucun des serviteurs qui était là, donc Jésus, lui, va prendre cette position. Et au verset 2, il y a un élément qui, pour moi, montre jusqu'à quel point Jésus va. Verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Judas est parmi ceux qui reçoivent ce lavage des pieds. Jésus savait parfaitement ce que Judas allait faire. Dans, on va dire, l'heure qui suit. C'était, à peu près une heure, allez, quelques heures au plus, après que Judas allait sortir et pour quelques pièces d'argent allait trahir Jésus entre les mains des chefs religieux. Et Jésus, avec une parfaite connaissance de cela, va quand même lui accorder la même grâce, la même occasion que tous les autres. Et ici, parce que Jésus savait cela, il ne s'est pas dit, Judas, je le mets de côté, je vais le traiter différemment. Là, il ne mérite pas ce que je lui accorde cela, que je fasse cela pour lui. Je sais ce qu'il va faire, donc c'est pas la peine. Non. Il va traiter Judas exactement comme tous les autres. Puis, verset 4, Jésus va se changer, il va se préparer pour cela. Verset 5, il prend ce qu'il faut pour laver les pieds et il commence à le faire. Et comme j'ai dit, l'exemple de Jésus ici est tellement extraordinaire. Non pas qu'il s'agit, comme certains groupes, de littéralement se laver les pieds aujourd'hui. Vous savez, il y a des groupes qui croient qu'il faut littéralement se laver les pieds encore aujourd'hui. Et que dans certaines, entre guillemets, églises, ils font ça encore aujourd'hui. Il faut le savoir. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord? Mais l'exemple que Jésus donne ici est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que tout ce que Jésus fait ici va à l'encontre de notre nature humaine, va à l'encontre de notre préférence. À qui est-ce que nous pensons en premier? À nous-mêmes, n'est-ce pas? Je me lève le matin et quelle est ma première pensée? J'ai faim, j'ai besoin d'une douche, j'ai besoin de ceci ou cela, je dois faire moi. Et si nous ne faisons pas attention, surtout dans ce monde qui nourrit cette pensée, qui dit « vous le valez bien », qui dit « pourvoyez à vos propres besoins, faites-vous plaisir, vous le méritez, ne vous privez pas », notre monde qui nourrit cette attitude et cet esprit, si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans cette erreur et dans ce piège de croire que « oui, c'est normal », de se mettre en avant. C'est normal de prendre soin de soi et rien que soi, utiliser tous ses efforts ou du moins une grande partie pour pouvoir à ses propres besoins. Et ce que Jésus montre ici, c'est tout le contraire. Ici, Jésus pense à ses disciples. Jésus, comme nous voyons dans le verset 1, il aime ses disciples. Depuis le début, au moment où il les appelle, tous, sans exception, les 12, il les aime. Et puis, il va passer à l'action. Et même avec la connaissance qu'il avait de la trahison de Judas, même de la avec la connaissance qu'il avait de ce que Pierre allait faire, Pierre aussi allait trahir 3 fois. Il allait le renier 3 fois. Même avec cela, Jésus continue de mettre ses disciples, même avant lui, de les servir, de manifester son amour pour eux. Et au verset 7, on comprend Jésus face à l'opposition de Pierre, parce que Pierre se dit « c'est pas normal ». Jésus lui répondit, verset 7, « ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre ne pouvait pas comprendre pour le moment. Pourquoi ? Parce que Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et pour nous aujourd'hui, de nous souvenir que sans l'aide du Saint-Esprit, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Et sans l'aide du Saint-Esprit, l'enseignement du monde, qu'il faut se mettre en avant, il faut s'occuper de soi, et après, si on a le temps, eh ben, on va penser peut-être aux autres. Si sans l'aide du Saint-Esprit, on va être d'accord avec ce raisonnement, on va délaisser les autres, on va délaisser Dieu, on va se mettre à la première place, et c'est uniquement avec l'aide du Saint-Esprit en nous que nous allons pouvoir rétablir les choses selon Dieu, c'est-à-dire Dieu à la première place. De le suivre, de l'aimer, de le servir. Et après, d'avoir un ministère envers les autres, et puis de savoir que Dieu prendra soin de nous. Et Jésus ici explique à Pierre, ben, il te manque quelque chose, tu ne peux pas comprendre. Même avec tout ton raisonnement, tout ton enseignement, même avec ces 3 ans qu'il avait passé avec Jésus, il était incapable parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Par contre, lorsque le Saint-Esprit va descendre, Actes chapitre 1er à chapitre 2, Pierre va prêcher avec puissance. Et lorsque nous lisons les deux épîtres de Pierre, cet homme qui semblait assez dur, prompt à parler, prompt à condamner, sera quelqu'un rempli d'amour, rempli d'humilité envers les autres. Et c'est une transformation opérée par le Saint-Esprit dans sa vie. Et puis, nous descendons au verset 12, où Jésus pose cette question, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et la réponse qu'il sous-entend, c'est non, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Verset 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus dit, si d'un côté nous allons dire que Jésus est Maître, qu'il est Seigneur, c'est-à-dire il a le contrôle, il a le droit de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous devons croire, comment nous devons agir, ce que nous devons dire. Si d'un côté nous disons cela, et que de l'autre côté nous refusons de nous mettre au service à la fois de Dieu et des autres, Jésus dit, il y a une incompatibilité totale. C'est totalement illogique, c'est incompréhensible, et c'est même de la désobéissance. Parce que ici, Jésus appelle à suivre son exemple. Et si nous refusons de suivre son exemple, cela équivaut à la désobéissance. Et il dit, je vous ai donné cet exemple, verset 15, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Encore une fois, comme j'ai dit, non pas de manière littérale, en se lavant les pieds, ça c'était pour une époque, et on n'a aucune indication dans le reste des évangiles, ni dans le reste du Nouveau Testament, que c'était une pratique commune dans les églises du premier siècle. Mais c'est surtout cette idée de se mettre au service, de s'abaisser, de ne pas reculer devant le service les uns envers les autres. Et puis nous descendons au verset 17. C'est là où Jésus, il va dire, si vous savez ces choses, si vous avez connaissance, vous êtes heureux. Et entendre la parole de Dieu, doit nous rendre heureux. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est juste, la parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu est agréable, la parole de Dieu est vérité. Et lorsque nous entendons et nous savons la parole de Dieu, ça ne peut que nous rendre heureux. Elle est profitable. Oui, parfois elle nous reprend, mais c'est toujours dans le but pour que nous soyons meilleurs pour le Seigneur. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Si vous savez ces choses, et il faudrait que nous les sachions, vous êtes heureux, pourvu à condition. il y a une condition, pourvu que vous les pratiquiez. Et la plus grande connaissance au monde, vous le savez, n'équivaut rien à côté d'une mise en pratique de la parole de Dieu. Combien c'est incohérent quelqu'un qui ne connaît pas, qui connaît parfaitement la parole de Dieu, mais qui n'obéit pas. Dieu va dire à Saül, à travers son prophète Samuel, « Qu'est-ce que je désire ? Je ne désire pas les sacrifices d'animaux. Non, je veux l'obéissance. Je veux l'humilité du cœur. » Et ici, Jésus explique à ses disciples qu'ils pourraient avoir la plus grande connaissance au monde. Ils avaient, pendant 3 ans, été, on va dire, élèves de Jésus-Christ. Qui ici voudrait cela? Être au pied de Jésus pendant 3 ans, imaginez-vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit, même ça, si on ne met pas en pratique, ça ne vaut rien. On ne peut pas être heureux simplement en ayant la connaissance, il faut passer à l'action. Et justement, ici, Jésus confronte ses disciples avec leur orgueil. Jésus ici confronte ses disciples avec leur manque d'amour. Ils faisaient certaines choses, mais Jésus leur dit, là, il y a encore des choses à améliorer. Et Jésus se montre en exemple parfait, et on peut se dire, mais c'est normal, il est Dieu. Tout ce qu'il fait est parfait, mais bien sûr, voilà pourquoi il est le meilleur exemple, il faut tirer exemple de lui. Et justement, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes dans ce cadre du repas du Seigneur, nous réfléchissons à ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque nous examinons notre vie, avons-nous la pensée de Jésus-Christ? Avons-nous le cœur que lui il manifeste ici? Est-ce que nous agissons pareil avec tous? Ou parce que nous sommes au courant de telle ou telle chose, nous allons agir différemment. Nous allons peut-être priver certains de l'amour fraternel à cause de ce que nous savons, une certaine connaissance que nous avons, une certaine expérience que nous avons eue. Jésus dit, il faut s'aimer les uns les autres. C'est tout son enseignement dans ces quelques chapitres, l'amour. Et il nous manifeste, et il nous montre l'exemple pour cela. Et puis, de se poser la question, dans ma vie, est-ce que, entre guillemets, pour prendre cette image de ce passage, est-ce que je lave les pieds de mes frères et sœurs? C'est-à-dire, est-ce que je me mets au service dans cette église, peut-être avec d'autres chrétiens, d'autres églises, si nous en avons l'occasion? Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons? C'est-à-dire être prêt à faire les tâches les moins honorables à nos yeux. Ou est-ce que nous sommes arrêtés par l'orgueil? Ou est-ce que nous sommes arrêtés par l'indifférence? Ah, quelqu'un d'autre le fera. Ah, moi j'ai fait trop d'études pour faire cela. Moi, pour telle ou telle raison, je ne peux pas. Ou, peut-être pire, je ne veux pas. Jésus ici montre que si lui, le créateur de tout l'univers qui a pris la forme humaine et qui est venu sur la terre, si cela n'était pas suffisant, il s'abaisse encore plus au rôle du plus petit, du plus bas serviteur, esclave. Si lui, il est prêt à faire cela, qu'est-ce qui me donne le droit de dire, moi, je ne peux pas ou je ne veux pas? Et justement, tout comme Jésus a confronté ses disciples avec leur orgueil, leur manque d'amour, leur manque aussi d'obéissance, Jésus, par sa parole, aujourd'hui, nous confronte avec ces mêmes choses. Parce que qu'on le veuille ou pas, par moment, oui, si nous sommes honnêtes, nous sommes orgueilleux. Nous pensons à nous. en premier et on cherche à satisfaire ses propres besoins. Et on se croit mieux qu'on est. On se dit, ah, j'ai pas trop de problèmes, pas grand changement à faire, je suis bien. Et à ce moment-là, il faut se remettre en question devant Dieu. Et tout comme Jésus a confronté ses disciples avec leur manque d'amour, bah, il nous confronte aussi avec notre manque d'amour. Et peut-être on peut dire, bah, je fais certaines choses formidables, continuons, mais est-ce que Dieu nous appelle à faire plus? Et ceci est valable individuellement. Ceci est valable pour notre Église en son ensemble. Je loue le Seigneur que notre Église soutient son pasteur à 100%. Notre Église a cette particularité d'être une des seules, pour ne pas dire la seule, Église biblique baptiste en France qui fait cela. Je loue le Seigneur pour cela. D'autant plus que j'en suis bénéficiaire. Bon. Je loue le Seigneur également que nous soutenons l'Institut biblique et que nous soutenons Jérémie. Mais en lisant ces paroles, je me suis posé la question, et j'aimerais vous poser cette question. Notre Église pourrait-elle faire plus? Pourrions-nous manifester l'amour de Dieu de manière collective, encore plus, avec un plus grand soutien missionnaire? Et je suis convaincu que oui. Et si Dieu veut que chacun individuellement manifeste l'amour déjà entre nous, combien plus il veut que notre Église dans son ensemble manifeste l'amour en dehors. Et ici, Jésus, devant cette grande mission qu'il avait de mourir pour nous, Jésus-Christ est réellement mort et il savait qu'il allait vers ça et que dans les heures qui allaient suivre, il allait connaître des souffrances, des douleurs intenses que personne n'ait jamais endurées et que, merci Seigneur, nous n'aurons pas, si nous sommes chrétiens, à endurer. Jésus a pris sur lui nos péchés. Mais au milieu de tout cela, Jésus pensait à ses disciples, Jésus pensait à nous. Et il voulait nous encourager. Il voulait nous dire, ah ben, il y a encore un travail à faire. Et certes, il faut avoir une bonne connaissance. Certes, il faut savoir ces choses, mais cela n'est pas suffisant. Après, ben, il faut passer à l'action. Il ne faut pas se laisser arrêter par l'orgueil, par un manque d'amour, par une sorte d'égocentrisme, par tous les obstacles que notre propre cœur et que Satan voudraient placer devant nous. Non, nous avons l'exemple parfait de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous éclaire et qui nous rend capables de faire ces choses. Nous avons la Bible complète entre les mains. Que nous manque-t-il? Puis-je soupçonner, à la fois pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est un cœur prêt vraiment à suivre Dieu? Dieu a tout fait de son côté. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Alors, de notre côté, que faisons-nous? Sommes-nous prêts vraiment à suivre à fond cet exemple de Jésus? Vous avez entendu parler un peu de cette, on va l'appeler révolution, que ferait Jésus? Surtout en anglais, il y avait ce diphtongue qui était là, que ferait Jésus? Il y avait toutes sortes d'enseignes, des bracelets et autres, que ferait Jésus? Et c'est une question à se poser. Que ferait Jésus? Parce qu'il est en moi. Si je suis sauvé par grâce, si je suis passé par la nouvelle naissance, Jésus habite en moi et il peut me rendre capable. Après, suis-je prêt à faire les sacrifices nécessaires? Suis-je prêt à me mettre à son service? C'est une question à laquelle chacun doit répondre individuellement. Je voudrais répondre à notre place collective. Mais Dieu nous appelle tous à nous remettre en question devant lui. Avons-nous l'amour de Jésus? Si oui, ça veut dire si nous sommes sauvés. Si oui, manifestons cela autour de nous. Prenons-nous le temps, faisons-nous les sacrifices de nous abaisser de manière individuelle. Et puis, notre Église, est-ce qu'elle va se donner les moyens d'être encore une lumière, de manifester encore autour de nous la lumière de Jésus-Christ, son amour, son pardon, sa puissance. Allons-nous le faire? Chacun individuellement doit répondre à cette question. Nous savons ce que Dieu veut. Il nous le montre ici. Jésus, c'est ce qu'il veut. Que nous répondions, oui, on va le faire. Maintenant, prenons cette décision, par la grâce de Dieu, et puis aussi, passons à l'action. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ton exemple au seuil de toute cette souffrance, de toute cette douleur par lesquelles tu allais passer. Tu pensais à tes disciples, tu voulais les instruire, tu voulais les aider, tu voulais leur laisser un exemple. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse. Nous sommes orgueilleux. Nous manquons d'amour. Nous ne sommes pas tout ce que tu voudrais, Seigneur. Nous sommes impuissants par nous-mêmes. Que tu nous aides. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, cette puissance divine qui vient de toi pour faire le bon choix, pour continuer, Seigneur, que tu nous reprends, que tu nous montres ce qui doit changer dans notre vie, et par ta grâce, que tu nous aides à le faire, et que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, parce que nous marchons avec toi, parce que nous avançons avec ton aide et avec ta force. C'est en ton nom que nous prions. Amen.